Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, pas facile de digérer un titre. 11 mois après avoir décroché le premier bouclier de Brennus de son histoire, le Montpellier Hérault Rugby a découvert cette saison les affres d'un après-titre. 10e du top 14, à 8 points du dernier qualifiable, les hommes de Philippe Saint-André ont sans doute laissé échapper leur dernière chance de qualification ce week-end en s'inclinant à la maison face à la lanterne rouge du championnat, le CA Brive. Une défaite de plus, la 14e de la saison, indigne de la part d'un club qui n'a pas su digérer la victoire de juin dernier. Alors comment expliquer cette saison médiocre et comment se remettre en selle pour redevenir à court terme une force qui compte dans le rugby français et s'installer dans la durée? Dans quelques minutes, nous poserons la question, et bien d'autres, au patron du MHR, un homme qui se fait rare dans les médias, même si son nom revient très souvent sur le devant de l'actualité. Moued Altrad sera l'invité des poteaux et on l'en remercie. Pour le questionner et tenter de disséquer ce qui se passe au MHR, la fine équipe des poteaux est présente, emmenée par notre star. Oh là là, il est beau. On dirait une vieille vedette américaine des années 50, tellement il est bronzé.
Je suis une vieille vedette. Mais pas américaine.
Non, ça serait. Ça va, Denis ? Il a fait beau sur le bassin d'Arcachon.
Mais oui, on a annoncé de la pluie, mais il a fait beau.
Voilà. Magnifique.
On reprend le travail.
Lui aussi rentre de vacances. Je sais pas s'il est aussi bronzé que Denis, sans doute un peu plus. Ça, c'est son côté gitan. Wilfried Templier est avec nous.
Salut les gars.
Il a fait c'est beau ça, ouais. À La Rochelle.
Ah oui, il a fait quelques. Non, je suis resté à Toulouse. Il avait la semaine dernière quelques jours de bien beau soleil. Ouais, ça a bien tapé.
Magnifique, magnifique. Enfin, lui, il n'était pas en vacances cette semaine, mais pas plus ou moins en vacances que les semaines précédentes. Revêtu de son sempiternel Bermuda.
Tu lui avais jamais fait ça.
Non, c'est vrai. Non, mais tu sais, j'aime bien les blagues répétitives. J'adore ça. J'adore ça. Julien Landry, notre correspondant à Montpellier. Salut Montpellier, comment ça va ?
Salut à tous, ça va très bien. L'eau est froide encore, Christophe, pour information.
L'eau est froide. L'eau est froide, oui, d'accord. Oui, l'eau est froide. Dis donc, qu'est-ce que je devrais dire ? Et puis notre compère du Midi Olympique qui va arriver dans un instant, Léo Faure. Bah, lui, il rentre de vacances maintenant, tu vois, le 8 mai, comme ça, il sera avec nous dans un instant. Avant d'accueillir notre invité dans un instant, on va commencer par faire le point avec toi, Julien, sur la situation du MHR, qui après 24 journées n'est pas exactement là où on l'attendait. On en est même très loin, Julien. Hein.
Ouais, une saison post-titre très difficile à digérer. Il a fallu gérer d'abord les départs des cadres, Ouédraogo, Guirado, Payog et Galtier, les papas du vestiaire qui avaient aussi un rôle de capitaine, les longues blessures dès le début de la saison des cadres, Arthur Vincent, Yacouba Camara, Geoffrey Doumerou, une préparation physique très courte et un statut à assumer à chaque déplacement. Le bilan chiffré est paru luisant et sans la victoire à la dernière minute à Perpignan il y a un mois, le MHR jouerait encore sa survie en top 14 aujourd'hui. 5 défaites à domicile, Toulouse, Toulon, Lyon et surtout deux non-matchs contre Castres et Brive, un parcours retour catastrophique, 8 défaites et seulement 3 victoires, une spirale de relégable, même pas sauvée par un parcours européen enthousiasmant. Dans une poule abordable, le MHR n'a pas réussi à décrocher un 8e de finale à domicile et malgré le match héroïque à Exeter, la saison européenne est ratée, tout comme donc la campagne nationale, une saison à oublier.
Voilà, saison à oublier. Philippe Saint-André avait du mal à trouver des explications après la défaite face à Brive qui a dû en plus se faire à 15 Montpelliérains contre 14 Brivistes et qui sont quand même inclinés, les Montpelliérains, battus 26-27 sur un dernier essai corrézien inscrit à la 84e minute. On écoute tout de suite le directeur du rugby Montpelliérain, Philippe Saint-André.
Bravo aux Brivistes, hein. Ils ne l'ont pas volé aujourd'hui. Hein. On est une équipe qui doute énormément. On a déjoué. Heureusement qu'on a eu un grand Anthony Boutier qui nous a tenu la baraque pendant 80 minutes. Mais bon, ça n'a pas suffi. Voilà. Alors pour expliquer pourquoi, comment, etc. La situation fait que maintenant, on ne peut plus se qualifier. Je crois qu'on ne peut plus même descendre parce qu'on doit avoir 11 points d'avance sur Perpignan. Donc j'espère juste qu'on aura envie de faire des bons matchs. On n'a plus à douter parce que de toute façon, on n'a plus aucune pression. Juste la pression d'essayer de bien jouer au rugby. Mais c'est très difficile et très, très, très complexe d'expliquer cette défaite.
Le ton de Philippe Saint-André, on se croirait revenu quelques années en arrière, hein, Denis. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu comme ça.
Il est déçu, c'est normal.
Au fond des chaussettes. Hein.
C'est une grande désillusion quand tu reçois le dernier et puis que tu as encore ton destin entre tes mains. Quoi. Ils avaient encore un coup à jouer pour raccrocher le wagon des 6, mais là.
Il y a 15 contre 14 en plus.
Oui, alors 15 contre 14, mais face à des brivistes héroïques.
Soude, hein. Les autres.
Oui, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que les brivistes ont rien lâché et puis ils sont en survie. Tu joues le dernier qui joue sa survie. Et c'est compliqué. Quoi. Là, si, moi, je trouve que le contexte était horrible pour lui, pour Philippe.
Et Christophe, en plus, Philippe arrivait après un après-match un peu tendu dans les vestiaires.
Alors oui, raconte-nous, que s'est-il passé dans les vestiaires?
Alors, au retour des vestiaires, comme à chaque fois, le staff et Philippe Saint-André parlent devant les joueurs. Et donc, Philippe Saint-André, là, a mis les joueurs devant leur carence. C'est parce qu'il y avait eu beaucoup de colère après Castres, notamment, où il avait dit que le comportement des joueurs avait été indigne des supporters qui étaient présents au stade. Il y avait donc eu beaucoup de paroles sur la revanche de cette semaine-là. Et donc, évidemment, Philippe Saint-André a demandé aux joueurs de se remettre en cause. Et à ce moment-là, Mohamed Awa s'est levé dans le vestiaire pour s'exprimer assez vertement contre Philippe Saint-André, demandant aussi au staff à se remettre en cause. Paul Villemc s'est levé pour soutenir Mohamed Awas dans cette prise de parole un peu tendue. Les échanges ont été assez violents, nous dit-on, et Moued Altrat, d'ailleurs, devrait recevoir cette semaine dans son bureau Mohamed Awas et Paul Villemc pour évoquer cet après-match musclé où Philippe Saint-André a été conforté dans sa position. Mais le président va évidemment nous en dire un peu plus.
Il va nous en parler dans quelques instants. Il sera avec nous dans quelques instants. Léo Faure nous a rejoint également, notre confrère de Midi Olympique. Salut Léo.
Salut à tous. Le train en route, mais me voilà.
Voilà, t'es bien là, tu n'as pas loupé. Aussi, tu as loupé quand même un papier de haute tenue, évidemment, de notre ami Julien Henry. Tu le réécouteras en podcast, hein, comme beaucoup de monde.
Je me réécoute tout le temps.
Tu te rends bien ça. Denis aussi le fait comme ça depuis 20 ans, il se réécoute.
Ça fait 20 ans, ouais. Tout le temps. Dès qu'il finit l'émission, il se le remet.
Ambiance tendue quand même, Denis. Hein.
C'est curieux, parce que là, on arrive dans presque un point de non-retour. Donc, moi, j'ai vécu ça au Stade Toulousain il y a très longtemps. Et quand tu es. Alors, est-ce que c'est les joueurs qui ont raison ou l'entraîneur? On est toujours partagé. Là, il y a vraiment un clash, il y a vraiment un truc qui ne marche plus entre les deux. Quoi. Donc, c'est compliqué. On ne sait pas tout, mais il y a quand même une révolte qui me fait dire que l'ambiance ne va pas être au mieux. Quoi. Ça ne va pas être au mieux. Ouais. Malheureusement.
On sera avec Mohamed Altrat dans quelques instants. On a un peu de mal à le joindre. Wilfried, on a l'impression quand même que le torchon brûle entre le staff et les joueurs. Je sais que tu es très ami avec Jean-Baptiste Elissalde. Est-ce que tu en sais un peu plus?
Non, c'est Julien qui m'a appris cette altercation. Ouais. C'est pas facile, messieurs, sur la longueur, de manager une équipe, hein, de 1 an, 2 ans, 3 ans, surtout le post-titre. Voilà, la saison de Montpellier est vraiment bizarre. Autant ils étaient, rien ne leur résistait au printemps l'année dernière, ils avaient une flamme en eux incroyable. Autant cette année, ça a complètement disparu et ils sont incapables de mettre un pied devant l'autre. Moi, je les ai vus samedi, face à Brive, rien n'allait. Ils prenaient un peu le large, mais les Brivistes revenaient aussitôt. Ils ont perdu cette maîtrise qu'ils avaient l'année dernière. On disait qu'ils étaient pénibles à jouer l'année dernière. On n'a jamais retrouvé ça cette année. Ils ont eu beaucoup de blessés aussi, des gifs.
Ils ont joué beaucoup avec des blessés incroyables. Donc,
Quand tu reprends tard, Denis, la saison tu as un décalage physiquement.
Mais tu parles de maîtrise.
Ça a été une équipe très cyclique cette saison.
Mais tu parles de maîtrise. Moi, je trouve qu'il y a quand même un manque d'envie incroyable. Alors, c'est pas pour accabler les joueurs, mais je sais pas moi. Quand t'as une qualif à aller chercher, tu peux pas déjouer comme ils ont fait. Tu peux pas avoir. Il y a le moindre respect, c'est d'avoir de l'envie, quoi. Et c'est vrai que.
Il faut pas minorer l'effet post-titre quand même, je pense, parce que c'est récurrent. Ça leur arrive à eux, mais ça arrive
très souvent. Oui, c'est vrai aussi.
Les Toulousains, quand ils font le doublé, il y a l'effet d'usure et de blessure, et il y a l'effet aussi de perte d'appétit un petit peu. Mais c'est régulier. Je me souviens clairement en 2017. Ils sont champions en 2018, ils explosent. Toulouse fait le doublé en 2021, ils ont une saison quand même qui est beaucoup plus dure l'an dernier. La gestion d'un après-titre, c'est compliqué, quoi. Castres aussi avait une saison très dure après son titre en 2018.
C'est vrai, tu as raison.
Il faut pas l'occulter, ça, quoi.
Il y a plein d'exemples, tu as raison.
Ouais. Alors, c'est assez régulier que le champion soit en difficulté.
Ça devait être notre fil directeur, je vais le raconter plus tard, ça, Léo.
Ouais, mais bon.
C'était à moi de raconter ça plus tard.
Du coup, il a tout dit, donc du coup, ton papier à la trapinette, mon petit gars.
Alors, si, allez, on resserra quand même.
On accueille tout de suite le président des MHR. Il est avec nous, même dans les moments difficiles, c'est ça, un garçon qui tient la barre. Bonjour, Mohamed Altrat, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour Moed.
Bon, président, bonjour, on vient de faire le constat. C'est tendu en ce moment au MHR. Non seulement les résultats sportifs ne sont pas ce qu'ils devraient être, et en plus, Julien nous racontait que c'était un peu tendu entre les joueurs et le staff. Je crois que vous avez convoqué Mohamed Aouaz dans la semaine pour qu'il s'explique devant vous, c'est ça ?
Non, ben écoutez, d'abord sur la saison, je crois que vous avez tout résumé là entre vous. Je vous entendais avec beaucoup d'intérêt et vous dites des choses avec beaucoup de justesse. Donc il y a eu l'après Brennus. Vous savez, je crois que vous l'appelez le syndrome du Brennus. Hein. ils ont fêté au-delà du raisonnable. Après, Philippe Saint-André m'a demandé de l'ordonner du jour pour aller continuer la fête à Barcelone, ce que j'ai fait. Et bref, après, ils sont partis en vacances. Donc, la pré-saison, si vous voulez, a commencé quasiment le 1er août. Donc, on a tronqué cette préparation entre deux saisons. Et on n'était pas prêt, en gros. Hein. Donc, on a fait avec ça. Ensuite, vous dites que c'est vrai que l'usure, les entraîneurs, etc. Mais quand même, il n'y a pas d'usure parce que c'est quand même la deuxième saison de staff actuel. Et on ne s'use pas quand même systématiquement au bout de la fin de la deuxième saison. Donc, l'ambiance est bonne. C'est vrai que le fait que quand vous avez une équipe, ça gagne un coup, l'autre ça perd, l'autre ça perd avec justesse, la troisième ça gagne avec justesse, et souvent un tir au but qui manque, qui est raté, etc. Donc voilà ce qui nous arrive cette saison, si vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est vrai que personnellement, je suis assez déçu quand même de cette saison, dans la mesure où j'espérais qu'on allait après, à Perpignan, on allait quand même gagner quelques plus que matchs que ce qu'on a gagné. C'est-à-dire, on n'a pas gagné grand-chose, je crois qu'on en a gagné deux. L'idée aujourd'hui, le fait est là, donc on ne peut pas refaire le passé. Le fait est là, il nous reste La Rochelle samedi et ensuite, je crois que c'est Pau, hein, qu'on va aller là.
C'est ça, Pau à la dernière journée.
Donc aujourd'hui, quand même, malgré tout, ces difficultés que vous avez mentionnées justement et que je vous confirme effectivement, on a encore une chance, si vous voulez, d'attraper la 7e, la 8e place, voire pourquoi pas, et ça dépend des résultats des autres, s'approcher de la 6e place. Mais
vous y croyez vraiment, président, là ? Vous pensez que, vu l'état d'esprit, là, c'est encore possible d'aller chercher ça ? Alors, on sait que la 8e place sera qualificative, notamment pour la Champions Cup, mais on a l'impression qu'ils ont un peu lâché la rampe quand même.
Je ne pense pas, si vous voulez, c'est tout état d'esprit, cet état d'esprit qu'on vient d'expliquer, vous et moi, qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même une chance minime, mais il faudra peut-être la jouer à fond. Certes, hier, après le match, là, c'est sorti, je crois, dans la presse, tout à l'heure, en disant qu'il y a eu des altercations entre joueurs, entraîneurs, etc. Rien de tout ça, tout simplement, vous le savez, comment ça se passe après un match. Un match difficile, surtout nous, contre le dernier de top 14, sans mépriser le dernier ou quiconque, d'ailleurs, de top 14. Donc là, ça laisse des traces, ça crée des amertumes, ça chamaille, etc. Et c'est vrai que c'était un peu chaud, quoi. Voilà. Ouais. Donc moi, j'étais présent à toute cette scène-là. Après, j'ai pris la parole, j'ai calmé tout le monde. Quant à la suspension ou à la convocation de Momo Aouaz, non, parce que Momo Aouaz, donc, il n'est pas en bon état en ce moment. Vous savez qu'il a eu une condamnation avec sursis. Là, je crois que c'est lui qui le dit, c'est pas moi, il passe au tribunal vendredi pour une autre affaire. Il a peur, de cette séance de tribunal correctionnel, quoi. Donc voilà l'état. Quant D'accord. à Paul, il a fait son match. C'est vrai que aujourd'hui, il revient de blessure, il donne pas le maximum parce qu'il veut pas le donner le maximum. Voilà la réalité.
Parce que la Coupe du Monde approche, vous pensez que certains joueurs ont déjà la Coupe du Monde en tête et ont peur de se blesser. Ça peut être aussi une explication.
Il y a celle-là, mais on peut pas l'occulter. C'est ça. Tout le monde, tout joueur espère un jour jouer la Coupe du Monde. Je pense que c'est quand même le cas de Paul. Bon, après, Paul quand même, c'est quand même un grand joueur. Ouais. Quoi qu'il donne, après, ça arrive aussi de rater, de passer à côté de son match le concernant. Et je pense que le match qu'il a raté, où il n'a pas été bon, en tout cas, c'est le match contre Bayonne. Hein. Donc, on s'est fait emporter un molle comme ça, je crois que sur une vingtaine de mètres, et après, on prend un essai. Là aussi, si vous voulez, ça ajoute à la tension, ça ajoute à tout ce que vous dites et ce que je vous confirme sur notre saison.
Mais Moed, personnellement, est-ce que vous le vivez comme un échec, cette saison, de ne pas se qualifier dans les six quand même et de ne pas jouer les phases finales?
Ben, c'est un échec, si vous voulez, mais quand même, rappelez-vous, je crois qu'on a fêté notre 20e année de remonter en top 14. C'est quand même un club jeune, si vous voulez. Montpellier, c'est pas forcément une terre de rugby, comme Clermont, comme Toulouse, comme Perpignan, et j'en passe. Donc, je construis. Hein, donc, ça fait une dizaine d'années que je suis là. Petit à petit, on progresse. Et le fait qu'il a quand même... On a été plus ou moins régulièrement dans les six, hein, depuis que je suis là, sauf deux années où on a gagné quand même le challenge européen, où on a gagné le bonus l'année passée. Certes, on trébuche cette année, il faut dire le mot. Hein. Bon, on va attraper, j'espère, la septième, la huitième place, et là, c'est qualificatif pour la Coupe d'Europe, et on va repartir de zéro. On a du renfort quand même en termes de joueurs, on a du renfort... Parce qu'il y a un head coach également qui arrive, Coquerel, hein, que vous connaissez tous, hein, qui est entraîné, qui est l'entraîneur des avants du club de l'Angleterre. Il a entraîné Toulon, je crois qu'en fin de saison, Galtier, la dernière saison de Galtier. Après, il a été à Édimbourg, il a fait des performances. Il a entraîné Leicester.
Ah oui, non, bon, mais c'est un sacré client, effectivement.
Ouais. C'est un sacré client, c'est un chien, entre guillemets.
Donc, ça veut dire que Philippe Saint-André, président, va vraiment prendre du recul à partir de la saison prochaine. Vous le voulez de nouveau dans l'administratif plus que sur le terrain. Est-ce que, pour vous, Philippe est encore l'homme de la situation, Philippe Saint-André, qui vous a amené à ce titre de champion de France?
Ah, oui, je suis reconnaissant pour Philippe, si vous voulez. Mais Philippe, depuis qu'il est là, il n'a pas entraîné réellement, si vous voulez, les entraînements des avances.
Oui,
c'est par Azan qui est parti, remplacé par Coudelot. Le reste de l'équipe, le mouvement général de l'équipe est entraîné par Elisseld, que vous connaissez tous. Et après, Philippe, il est là pour le recrutement, il est là pour le choix technique, pour un certain nombre de choses qui concernent le club. Là, peut-être cette année, plutôt l'année prochaine, la saison prochaine, il va prendre encore plus de recul, si vous voulez, par rapport à ça. Mais ce n'est pas lié à la situation de
samedi dernier. Oui, c'était prévu, c'était prévu. C'est pas
c'était prévu, d'ailleurs. Je pense lui donner un poste de vice-président ou des choses comme ça. Quoi.
D'accord. Julien, une question peut-être au président Aldrad.
Oui, mais en parlant du staff et des joueurs qui allaient arriver, donc évidemment Zach Mercer va retourner en Angleterre, et Montpellier va récupérer Sam Simons d'Exeter, mais il y a aussi eu l'affaire Luke Kowandiki, le talonneur anglais venu passer sa visite médicale, qui s'est pas terminée pour quelques dérives nocturnes de la part de l'international anglais, qui était là jeudi dernier pour finir sa visite médicale, et on a appris qu'il n'avait pas répondu favorablement au dernier test. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la venue ou non de l'international anglais qui avait signé un pré-contrat?
Julien, il n'a pas, c'est pas tellement qu'il n'a pas pu répondre, il n'a pas répondu, donc il était un sel de dégrisement et on n'a pas pu le questionner. Donc là, il va revenir à la semaine prochaine et on va voir quel sort on va lui réserver ou que lui se réserve lui-même, quoi, en quelque sorte.
C'est quand même un drôle de secteur d'activité, le rugby, Mohamed Altrad. Hein. Vous qui êtes dans l'entreprise, c'est pas du tout une entreprise très rationnelle, finalement, le rugby, on a l'impression quand même. Hein.
C'est-à-dire, vous le dites très justement, c'est une entreprise bizarre, quoi, parce qu'elle n'a pas de produits, finalement, elle n'a pas forcément de clients très définis, elle n'a pas un tas de choses, quoi, si vous voulez. Mais n'empêche, quand même, c'est que ce soit l'entreprise ou un club, c'est quand même à la base des hommes, quel que soit le produit qu'on fabriquait, par exemple chez Altrad, Voilà. Donc c'est la base des hommes, et ça, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Sans cet équilibre, on ne peut pas progresser, on ne peut pas vraiment prétendre à gagner des matchs. Et dans cet équilibre, il est compliqué à trouver cette harmonie qu'on a su trouver, quoi, après 10 ans de ma présence dans le club, et on a gagné le bonus. Donc voilà, après, là, ce qui nous arrive, ça, c'est comme des scènes de ménage, quoi, en quelque sorte.
Mais en même temps, c'est un domaine d'activité qui procure des joies intenses. Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu au moment où Montpellier a décroché le titre de champion de France. Est-ce que vous aviez connu ce genre de joie intense avec vos entreprises quand vous avez, là aussi, gagné tous les marchés, par exemple? Est-ce que c'est le même genre de joie?
Oui. Ben, si vous voulez, c'est pas les mêmes joies, quoi. Dans l'entreprise, on ne boit pas pendant 3 semaines. Donc, mais franchement, dans l'entreprise, bon, vous savez, je suis parti de rien, hein, ouais, dans mon entreprise, des actifs d'une boîte en faillite, etc. Aujourd'hui, vous avez le premier groupe mondial, 70 000 personnes dans le monde, une centaine de pays. 5,3 milliards de chiffre d'affaires. Mais je me suis jamais saoulé la figure, comme on dit, pour ça, quoi. Mais c'est vrai, j'étais content. Après, c'est pas mon caractère. Vous me connaissez, je suis plutôt calme, etc. Donc, le bonus, la joie de bonus. Mais franchement, le moment où on a gagné le bonus, eh ben, pour moi, j'allais fêter ça avec eux. On a loué un restaurant à Paris, et le lendemain, j'allais reprendre mon boulot, quoi. Mais en fait, c'était pas du tout ça, quoi. Ça durait, comme je viens de vous l'expliquer, 4 semaines, et j'allais avec eux, et à la fin, comme j'ai pas l'habitude, je me suis trouvé.
Vous avez passé un drôle d'été, quand même. Ils vous ont soumis à rude épreuve. Wilfried, une question peut-être pour Mehmet Altrad.
Président, pour finir sur Kowandiki, on ne sait, à l'heure où vous nous parlez, vous ne savez pas si Luc Kowandiki sera Montpellierain la saison prochaine.
Je crois qu'il a des problèmes, si vous voulez, c'est médical, quoi, santé, donc des cervicales qui posent des vrais problèmes. Il n'a pas répondu quand même, il avait 3 tests, il en a fait un, et il n'a pas complètement répondu, il reste à refaire les deux. Mais franchement, peu de chance, si vous voulez, d'après les médecins et du club, mais c'est aussi, on a sollicité des spécialistes à Montpellier, peu de chance. Mais on doit quand même, de par le pré-contrat qu'on a signé avec lui, aller jusqu'au bout de l'exercice et après le déclarer inapte.
D'accord. Alors, président, vous parlez de votre plongée dans ce rugby. Au-delà de Montpellier, il y a avec les relations avec les autres présidents du top 14, ça n'a parfois pas été facile. Est-ce que ça va mieux? Quelles sont vos relations avec les autres? À qui la faute? Oui. Est-ce que le rugby, c'est un peu de l'entre-soi? Ou est-ce que vous avez fait les efforts pour vous intégrer? Parce que c'est vrai que, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais vos relations avec les autres présidents n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Est-ce que vous en êtes maintenant? Comment vous... Quel regard vous portez là-dessus?
Écoutez, j'ai jamais eu d'animosité avec quiconque parmi les présidents. C'est vrai que ma présence dans le rugby, de par ma culture, de par mes origines, de par ce que je suis, en tant que personne quand même complètement atypique, fait que ça n'a pas été forcément apprécié. Mais je pense aussi, si vous voulez, ça il faut le dire, ma réussite en tant que chef d'entreprise, elle n'a pas été beaucoup appréciée. C'est une réussite spectaculaire, je me permets de dire ça parce que ce n'est pas moi qui le dis. Elle n'a pas été appréciée par certains, quoi, qui, eux, tout d'un coup, ils se voient quand même, un niveau inférieur, quoi, disons les choses comme ça. Mais j'en veux à personne, je pas, c'est pas mon sujet, si vous voulez. Après, il y a la manière dont le rugby est géré, c'est guerre entre la porte, entre Gauze et je sais pas qui, etc., etc. Ça, si vous voulez, ça a un côté franchement détestable, quoi. Donc, j'allais souvent, pendant quelques années, après, ça fait X années, je suis pas allé. Il y a Philippe Saint-André, effectivement, qui va. Il y a notre directrice générale, Jessica, qui va. Je me contente de ça et je ne peux pas plus que ça non plus.
Où en sont vos relations justement avec Bernard Laporte que vous venez d'évoquer? Bon, on rappellera peut-être la situation judiciaire dans quelques instants. On sait que vous étiez très proche de Bernard. Est-ce que après toutes ces affaires, vous continuez à être très proche de l'ancien président de la Fédé?
Bah, écoutez, parlons du procès. Je crois que c'est un sujet sensible. Je ne peux pas vous dire beaucoup de choses. Donc, il y a eu la décision de la première instance. Aujourd'hui, on est en appel. On prépare notre dossier, notre défense, etc. En gros, si vous voulez, qu'est-ce qu'on me reproche? Je crois que vous le savez. Vous ne savez pas, mais je vais vous le dire. C'est d'avoir signé un contrat d'image avec un président d'une fédération. Or, lorsque ça s'est passé au mois de, je crois qu'au mois de mars 2017, moi j'ai rencontré Laporte parce qu'il venait d'arrêter avec Toulon et je voulais un entraîneur. Donc je l'appelle, on se met d'accord sur un package, etc. Or, le problème qui se pose, si vous voulez, je ne le savais pas, c'est d'avoir signé justement ce contrat d'image avec un futur président. Mais au moment où j'ai signé, je ne savais pas qu'il allait être président. Vous voyez, c'est ça le sujet, quoi. Donc ça relève du droit public, cette signature, parce qu'un président d'une fédération, quelle qu'elle soit, foot, rugby, etc., toutes les fédérations françaises et probablement internationales, c'est la loi qui s'applique, c'est le droit public. Et moi, je ne suis pas spécialiste de droit public, donc je l'ai montré à mes avocats, à mon service juridique chez Altrad, à notre commissaire en compte, et personne n'a relevé quoi que ce soit comme irrégularité et comme quelque chose de prohibité d'être signé. C'est ça ce qu'on me reproche. Donc, effectivement, c'est ça le sujet, mais rien d'autre.
Mmh. Wilfried ?
Pour continuer là-dessus, comment vous avez vécu de vous retrouver jugé devant un tribunal, Président ?
C'est nouveau parce que c'est la première fois que je me trouve devant un tribunal correctionnel ou même autre d'ailleurs. Donc c'est une ambiance spéciale, c'est une composition spéciale, c'est intimidant. Vous avez beaucoup d'une salle de plus de 100 personnes, plein de journalistes d'ailleurs, vous étiez. Donc voilà, vous avez des juges, un tribunal, un procureur qui vous pose des questions. Et le tribunal fait, je suppose, correctement son métier, vous répondez. Après, c'est vrai que côté intimidant, ça peut l'être si on n'est pas solide. Et surtout, ça a duré quand même une dizaine de jours, cette affaire-là. En accord avec la présidente du tribunal, je lui dis, madame, moi j'ai 62 000 familles à faire vivre. Est-ce que vous m'autorisez à ne pas être là? Elle me dit, monsieur Altrad, je vous connais. C'est d'accord, mais par contre, j'ai besoin de vous 3 jours, les jours où je veux vous interroger parce que je ne veux pas écouter que les avocats. Donc j'étais là les 3 jours. Après, si vous voulez, je suis parti, quoi.
Lorsque vous retournez finalement sur cette aventure qui est en cours, vous n'avez jamais de regret, Mohamed Altrad, de vous être engagé avec ce club de rugby? Est-ce que vous avez finalement, quand vous faites le bilan comptable, plus de d'atouts positifs que de côté négatif, ou alors
Non, je n'ai pas de regret, si vous voulez, mais je constate des erreurs. C'est-à-dire, j'avais cru y arriver très vite, c'est-à-dire gagner le top.
Comme tous les chefs d'entreprise qui se mettent dans le rugby, finalement.
Oui, mais donc je ne me distingue pas, je vous rassure. Donc j'ai fait des erreurs, je les ai admis devant le grand public, à travers vos confrères, etc. Mais je dirais, vous savez, dans les erreurs aussi, on peut grandir. Hein, si on n'a pas d'ego surdimensionné, on accepte ses erreurs à un moment donné. C'est douloureux de dire je me suis trompé, mais c'est la vie des hommes, que vous êtes, que je suis, que tout le monde est. Donc voilà, aujourd'hui je pense que j'ai compris beaucoup de choses et que j'ai un bon club, hein, malgré tout, malgré sa jeunesse, hein, quand même. Si vous voulez, c'est un grand plat, hein, pour le faire, et il faut du temps, quoi, et des bons ingrédients.
Mouaid, on dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Aujourd'hui, vous êtes plus fort.
Non, je pense que je suis plus fort, si vous voulez. Ce que j'ai appris, c'est la passion, si vous voulez. C'est dans les affaires, c'est vrai, on dit je suis passionné par mon boulot, etc. Mais ce n'est pas la même chose. La passion, dans le rugby, il n'y a que des émotions. Dans la passion, dans les affaires, il y a des choses concrètes, il y a un chiffre d'affaires qui explose, il y a des résultats fantastiques, vous arrivez à fédérer 70 000 personnes qui travaillent pour vous et vous dites, ça c'est une vraie équipe. Quoi. Il y a plus de nationalités diverses, il y a un ensemble nationalité chez Altra. Donc faire travailler tous ces gens-là ensemble pour faire quelque chose d'exceptionnel pour ce pays qui s'appelle la France, pour moi en tant qu'émigré, mais franchement c'est une fierté. Quoi.
Est-ce que vous diriez que vous êtes devenu plus patient avec à la tête du MHR?
Vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'être patient parce que vous ne pouvez pas faire plus vite. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, enfin, ce qui arrive au club aujourd'hui, ben, franchement, c'est une péripétie, si vous voulez. Il ne faut pas trop s'attarder dessus. C'est une raison ratée. Il y en a beaucoup qui l'ont ratée. Ben, nous, on tombe dans le panneau. Quoi. Voilà. Donc, on va essayer de rebondir l'année prochaine. Encore une fois, il y a de nouveaux joueurs. Il y en a qui partent. Il y a un coach qui arrive, il y a des moyens supplémentaires, etc. Donc, on va continuer ce beau bâtiment.
La dernière question pour Léo, justement. J'allais venir vers toi, Léo.
Et ouais. Si on regarde la dernière année que vous venez de vivre, vous avez touché la finalité de ce pourquoi vous étiez venu au rugby. C'est ce Brennus que vous avez pensé avoir plus vite et que vous avez fini par toucher. Vous avez aussi, on l'a dit, connu tout cet épisode judiciaire qui a dû être vraiment éprouvant. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit j'ai fait le tour, j'ai connu le plus grand plaisir et les plus grosses difficultés et je vais passer à autre chose?
Non, vous savez, non, je ne suis pas cette personne-là. Vous savez, je considère que la réussite n'a pas de limite, en quelque sorte. Donc, on continue, si vous voulez. Après, donc je continue, je suis passionné par mon groupe, encore plus passionné, encore une fois, ce n'est pas la même passion par le rugby. Mes enfants, ma famille, y en a, voilà, qui jouent au rugby, qui adorent le rugby, qui me font la tête lorsqu'on perd un match, tel que samedi, il y a un joie fantastique à la maison, etc., lorsqu'on gagne, etc., comme l'année passée, on a gagné sur 10 matchs d'affilée, c'était super. Après, voilà, il faut continuer, pour moi, je vais continuer porter ce club, porter ce groupe au maximum que je peux faire. Quoi.
Mais Moed, il y a juste une dernière question. Il y a des matins où vous ne levez pas et vous dites je vais arrêter parce que je suis un peu fou.
Ouais, ras-le-bol.
Je suis un peu fou quand même d'être là. Non,
non, franchement, ça ne me traverse jamais. Je ne lâche pas. Hein. Je ne lâche pas d'ailleurs. Le mot lâcher, les joueurs de rugby.
C'est pas votre genre. Bravo. Hein.
Oui, mais par contre, eux, ils disent je ne vais pas lâcher, mais ils lâchent quand même. Hein.
Mais ça, c'est oui. Ça, on va vous envoyer sur le terrain, Moed. Vous allez en mettre un peu.
Oui, mais il faut qu'on muscle un peu là.
Merci beaucoup, Moed Altra, dans tous les cas, d'être venu vous expliquer au micro des poteaux. Et on vous souhaite une bonne fin de saison et puis surtout une saison prochaine qui sera.
La 7e place, t'as entendu?
Oui, 7e ou 8e place.
7e ou 8e. La 7e serait bien.
Ce serait pas mal. Merci beaucoup, Moed Altra.
Merci à vous.
Merci, Moed, président. Merci d'être venu vous expliquer. Moed Altrad, l'un des hommes sans lesquels le top 14 ne tournerait peut-être pas aussi bien qu'il le fait depuis des années. On rappelle qu'au moment où le championnat anglais est confronté à une grave crise économique, chez nous, les clubs s'en sortent pas trop mal, même si le Covid a fait des dégâts. Cette tradition de président mécène dans le rugby mondial, le rugby français en particulier, c'est loin d'être nouveau, Wilfried. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de précédents et qu'aujourd'hui encore, beaucoup de clubs sont tenus par des gens qui ont la passion chevillée au corps, la passion du rugby, la passion de faire avancer les choses.
Ouais, il y en a quelques-uns qui apportent leur argent personnel, on va dire. Au-delà des hommes, faut savoir aussi que ce dont on parle moins, ce sont des entreprises, les grands groupes même, derrière des clubs qui ont eu des titres. Clermont serait pas Clermont sans Michelin, et c'est pareil à Castres sans les laboratoires Fabre. Alors, Pierre Martinet, souvenez-vous, en son temps, a aidé Bourgoin à être au top. Voilà, mais dans l'imaginaire des gens ces dernières années, celui qui s'est imposé en cassant les codes, en plus, c'est Mourad Boudjelal à la tête de Toulon, parce qu'après la vente des éditions Soleil, il a mis ses deniers personnels. Hein. Lui évoquait une somme de 10 millions d'euros en tout, hein, tout au long de ces années, pour aller chercher les Umaga, Gregan, Matfield en pro D2. Et puis après, bah, on sait, hein, Wilkinson, Eman, Botta, Guito, Abana, avec la réussite qu'on connaît, trois Coupes d'Europe, un bouclier de Brinus. Quasiment au même moment, il y avait Jackie Lorenzetti aussi, qui venait de vendre Foncia, qui s'est lancé au Racing. Beaucoup de dépenses pour lui. Et Berbizier, Chabal, Rocco Soko, puis Dan Carter, la construction de la Paris de la Défense Arena, mais un seul titre hein, en 2016. Et puis enfin, si le maître a pris Bernard Lemaitre, pardon, a pris le relais de Mourad Boudjelal à Toulon, le gros poisson, il est arrivé en 2017 dans la capitale, l'Allemand Hans Peter Wild, fortune annoncée à 3,3 milliards de dollars, hein, un tout petit peu plus que Moed Altrad, comme Denis exactement. Il est arrivé au bon moment pour le Stade Français, qu'il a racheté à Thomas Savard. Mais comme quoi, messieurs, l'argent fait pas tout, parce que depuis qu'il est à la tête du club, le Stade Français ne s'est qualifié qu'une seule fois et sans jamais atteindre ne serait-ce qu'une demi-finale.
Voilà, c'est président mécène. On a l'impression qu'avant, Denis, à ton époque aussi, il y en avait un paquet. Il y avait même que ça. Kampf, par exemple, patron de.
Il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y en avait Serge Kampf, évidemment, mais il n'y en avait pas trop.
Enfin, il y a mécène et mécène, parce qu'ils n'étaient pas tous à 3,3 milliards d'euros de fortune personnelle.
Non, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Max Voisiné n'était pas un mécène. Enfin, il a dépensé beaucoup d'argent aussi, quand même. Personnel.
C'est un bâtisseur.
C'est un bâtisseur, mais bon, il a quand même donné de son. Comment dire, c'est des données personnelles. Non, mais il y a du bien et du moins bien. Je veux dire, c'est quand on entend Moed, ça fait du bien parce que tu sens quand même qu'il est sans langue de bois et puis qu'il n'est pas là pour que faire parler de lui, quoi. Donc c'est toujours la difficulté de vouloir tout faire et tout régir et tout maîtriser. Donc
ces gens-là s'accrochent, continuent. Même après les déceptions, ils n'ont pas ce genre de déception à l'échelle de leur entreprise. Il a toujours tout réussi, Lorenzetti aussi. Et là, quand tu arrives dans le rugby, tu te confrontes.
Les difficultés avec dans le genre. Alors Bernard Lemaitre qui est aussi, on n'a pas parlé de lui, mais c'est la même chose à Toulon, il a un certain âge quand même, donc Hans-Peter Wild a un certain âge, c'est l'héritage qu'ils vont te donner. Moi, l'inquiétude, c'est un peu ça.
Après moi, le déluge.
Donc, c'est super qu'ils soient dans le rugby parce que ça fait pas ça. Comme tu l'as dit, en Angleterre, ils ont de gros problèmes. Nous, ça maintient l'économie à flot et c'est tant mieux. Mais après, il faut que les virages soient bien pris et qu'il n'y ait pas de dégâts derrière.
Ouais. Après, comme on en a parlé, c'est pas le grand amour avec les autres présidents. Non, hein, vous avez dit. Quand il disait il y va plus, c'est aux commissions de la Ligue.
Boudjelal, c'était pas le grand amour non plus. Lorenzetti non plus. Ces gens-là détonnent quand ils arrivent dans le milieu du rugby quand même. Ils ne font pas partie.
Ils font peur surtout. Tu comprends, le problème, c'est qu'ils font peur. Donc, ils sont repris. Par leur réussite.
Mais ils sont indispensables aujourd'hui, Léo, à la réussite du rugby français.
Complètement. Il y a beaucoup de clubs qui ont ce modèle-là ou qui vivent sur les fortunes d'un homme qui, effectivement, après, construisent une économie et qui pérennise et qui devient autosuffisante autant que possible. Mais quand il y a des trous, c'est quand même eux qui reviennent. Et ils sont nombreux, ces clubs. Wilfried les a cités. C'est presque la moitié du top 14 qui vit ou en tout cas qui s'est construit sur des deniers personnels.
Et après, il y a l'autre cas. Tu mets La Rochelle ou Stade Toulousain en face. C'est d'autres économies. Mais ce qui marche, mais bon, on sait que parfois c'est à flux tendu.
Mais c'est peut-être un peu plus pérenne quand même. Là. Par exemple, La Rochelle, Wilfried, effectivement, c'est basé sur un homme qui a une belle fortune, mais qui a su aller chercher tout le
C'est 400 entreprises, je crois. Voilà. Enfin, ça va jusqu'à ça monte jusqu'à Angers, ils profitent d'un bassin aussi où le sport professionnel n'est pas au top.
Oui, mais c'est pas un bassin économique énorme comme ça peut l'être dans des grandes villes françaises.
Non, mais ça va plus loin. C'est un agglomérat d'entreprises. Oui, le modèle toulousain est aussi là-dessus. Ouais. Avec des gros poissons aussi en entreprise. Et oui, c'est parce que ça a tangué il y a quelques années au niveau du Stade Toulousain. Ils étaient dans le rouge, hein, donc Didier Lacroix a fait un travail incroyable depuis qu'il a repris la présidence là en 2017. Mais c'est pas du tout la même chose. Les Boudjelal, les Altrad ont du mal à être peut-être acceptés, parce qu'ils étaient suspects de certaines choses au niveau des salaires, évidemment. Mmh. Tout le monde s'arrange comme il veut, mais ils étaient regardés d'un œil particulier, comme vous dites. Peut-être pas du sérail.
Ils n'ont pas les codes. Donc, ils n'ont pas les codes non plus. Donc ils arrivent, ils chamboulent et bouleversent pas mal de choses. Donc,
par certaines déclarations, Mourad Boudjelal s'est tiré des inimitiés aussi, hein, de l'autre côté, à l'inverse.
Il les cherchait.
Les strikes qu'il faisait en conférence de presse, voilà.
Ce que je vous ai dit, ils font peur aussi. Donc voilà, c'est pas évident.
Ils dérangent un peu le système. Comment est-il perçu à Montpellier, Moed Altrad, Julien, justement, cette réussite, cette difficulté à s'imposer maintenant avec ce boulier, évidemment, ça a changé les choses. Mais comment
il est... Parce qu'on n'a pas parlé, en plus du volet politique concernant Moed Altrad, mais il ne faut pas oublier qu'il s'est présenté à la mairie de Montpellier avec l'ambition d'être maire. Alors, ça n'a pas abouti, mais évidemment, il y a des grosses tensions. Il y a toujours eu des grosses tensions avec les maires en place parce que lui aimerait développer le stade du GGL Stadium, mais il n'en a pas l'autorisation. Avec d'ailleurs cette scène assez rigolote où, lorsqu'ils ont diffusé le film du titre du MHR, le maire de Montpellier est venu avant la diffusion du film pour remercier chaleureusement Moed Altrad de tout ce qu'il pouvait faire, pour raconter toute son histoire. Moed Altrad n'a pas décroché le moindre sourire lors du discours du maire. Et à la fin de la diffusion du film, Moed Altrad a pris le micro et devant la scène, tout le monde, il a dit que l'histoire que le maire venait de raconter était totalement fausse, mais qu'il ne c'était pas le lieu pour remettre les vérités en place, mais qu'à un moment il le ferait. Donc voilà, les relations sont particulièrement tendues. Il fait fuir quelques personnes au stade parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les manières de Moed Altrad, et voilà, comme il peut faire fuir des stades, mais lui il reste. Ce qui fait rester d'ailleurs ces hommes dans les clubs, c'est la passion, hein, parce que les entreprises, c'est assez froid. Ce qu'il raconte quand il dit qu'il a fait 3 mois la fête pour le bouclier de Brennus, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu à l'entreprise, malgré les plus gros contrats décrochés. Même quand il est devenu entrepreneur de l'année en 2016, il n'a pas fait 3 mois la fête. Ouais. Donc là,
mais il s'est assagi, Julien, quand même.
Oui, non, mais il s'est assagi, il s'est calmé. Il y a 3 ans, Philippe Stendré, il serait déjà en train de taper à la porte d'RMC pour dire est-ce que vous n'avez pas besoin de moi entre les poteaux, hein?
Bon, on a bien compris.
Heureusement
en tout
pour
cas,
la stabilité que de Montpellier.
La fête a été un peu trop longue à son goût quand même. Oui. On l'a bien compris. Hein, il l'a répété à plusieurs reprises.
Ouais. Mais après, il faut être honnête, il a vécu plus de galères que de bons moments.
Mais oui, c'est ça.
C'est pour ça que les
questions que vous lui avez posées là-dessus, c'est qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que vous faites encore là, quoi? Après tous les coups que vous avez reçus.
C'est des postes très ingrats quand même.
Ouais.
Franchement,
tout ça pour
un bouclier,
la joie d'un,
ou pas,
d'une soirée,
ouais,
et d'un été incroyable. Ouais. Très bien, en tous les cas, entretien très intéressant avec Moed Altrad, le président de cette équipe.
Il a annoncé quand même plus de retraits, hein, tu as vu, pour Philippe Saint-André.
Ouais.
Juste si on peut finir là-dessus, Julien,
a priori,
si c'est vraiment prévu comme
club,
ça.
Hein, a priori, il reste au club.
Oui.
Non.
Mais quand on dit à un entraîneur il va prendre plus de retrait, c'est pas bon signe peut-être, non?
Oh, mais il était manager, non, Philippe, il était plus manager que qu'entraîneur.
Dans l'esprit de Moed Altrad, Moed Altrad va aussi finir par prendre du recul. Ça peut être comme Thomas Lombard au Stade Français, ce rôle de président délégué, président directeur. Philippe, de toute façon, faut être tout à fait honnête, tout le monde le sait, Philippe Saint-André, il ne va plus sur le terrain dans la semaine. Ouais. Hein, il ne fait plus rien, il ne fait plus aucune séance d'entraînement.
Il ne fait quand même plus aucun.
Tu es en train de nous dire qu'il a un emploi fictif, c'est ça?
Non, il est aujourd'hui directeur du rugby, il gère le recrutement, il s'occupe des passerelles entre la formation et... Mais par contre, voilà, il ne fait plus de rugby, il a encore son mot à dire sur la composition d'équipe, sur la gestion des hommes, mais il ne fait plus du tout de rugby aujourd'hui au sein du MHR, ou très peu d'ailleurs.
Il va revenir en faire pour la Coupe du Monde avec nous, vous inquiétez pas.
Il va se présenter à la mairie de Montpellier.
Philippe Saint-André, très bien, merci en tout cas Julien de nous avoir mis Moed Altrad au bout du fil.
Avec
plaisir. Pas toujours évident d'avoir un président, un PDG d'une aussi grosse entreprise, il l'a répété, c'est vrai que la réussite est totale de son côté. Merci Léo, merci Wilfried,
salut,
Julien
messieurs.
Et Denis. Plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition d'Entre les poteaux. Bonne semaine, ciao ciao.
Salut.